Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouvons tout le long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales, parfois végétales, des oiseaux, des lieux secrets qui peuplent encore notre campagne. Toutes ces thématiques autour de la nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants avec qui nous partageons notre terre. Aujourd'hui, grande émission sur un animal qui fascine autant qu'il divise, un animal qui a disparu de nos paysages avant de revenir naturellement. Je vais vous parler du loup gris, Canis lupus. Alors attention, accrochez-vous bien parce que je vais déconstruire énormément de vos a priori, peut-être si vous en avez, sur cet animal fascinant. Déjà, le loup est aujourd'hui le plus grand carnivore terrestre sauvage présent en France. Alors, je parle de carnivore terrestre après l'ours, évidemment, qui lui va peupler plutôt les Pyrénées. Que nous avons dans le sud. Le loup, lui, il commence à émerger un petit peu partout en France. Et nous allons en parler justement tout le long de cette émission. Un individu adulte mesure généralement entre 1 mètre et 1 mètre 30 de long, sans compter la queue, et peut atteindre entre 30 et 40 kilos, suivant si c'est un mâle ou une femelle, et suivant également la période de l'année. Son corps est entièrement façonné pour l'endurance. Un loup peut, en période d'émancipation, très facilement marcher, courir, en une seule nuit, une centaine de kilomètres assez facilement. Là où certains prédateurs misent sur la vitesse, le loup, lui, va miser plutôt sur la durée. Il est capable de parcourir, donc comme je le disais, des centaines de kilomètres, une centaine de kilomètres en une nuit. Sa silhouette, elle, est élancée, ses pattes longues et son thorax est puissant. Il a une mâchoire qui est adaptée à un régime alimentaire carnivore et son odorat lui permet de suivre une piste sur de longues distances. C'est un animal parfaitement adapté à une vie sauvage européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu tout ça ? Quand on parle de vie sauvage aujourd'hui, vous aurez bien compris que malheureusement, la vie sauvage, on en a quand même très peu encore autour de nous, dans nos forêts, dans nos campagnes. Donc, il est adapté à la vie sauvage, mais surtout, il s'est adapté et il a été contraint de s'adapter à la vie plutôt agricole, pastorale, forestière, en tout cas sur le côté gestion de la forêt, parce qu'il a dû s'adapter énormément à l'impact de l'homme sur son territoire. Le loup avait disparu en France il a été chassé, éradiqué même, on peut employer ce mot-là, vraiment du territoire, par plein de légendes, plein d'a priori, en tout cas le fait qu'il attaquait les troupeaux certes, mais qu'il pouvait attaquer les hommes, qu'il pouvait attaquer les enfants dans leur lit, énormément de contes et de légendes, le petit chaperon rouge pour diaboliser celui-ci. Le loup a été associé au diable aussi pendant le Moyen-Âge. Donc tout ça a fait que il a été pourchassé et donc du coup abattu. Juste une petite aparté, le loup n'attaque pas l'homme en temps général et il a pu arriver dans l'histoire qu'il ait attaqué l'homme, sauf qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des choses. Il a attaqué souvent l'homme lorsque les hommes étaient malades, en pleine campagne, esselés également. Donc, plutôt une proie facile pour un loup, voire une meute de loups. Souvent, on entend des légendes, comme je disais, sur le fait qu'ils aient attaqué des enfants, qui gardaient les troupeaux. Alors, là, pour le coup, on est vraiment sur des légendes. Le loup n'a jamais eu goût à la chair humaine, sauf qu'au Moyen-Âge, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on on avait des décès, on mettait souvent les corps dans des fosses communes, et le loup étant affamé, puisque les cerfs et les biches et les chevreuils étaient extrêmement chassés par la noblesse et l'aristocratie, il en restait quand même assez peu pour que le nombre de loups qu'il y avait dans les forêts puisse se nourrir correctement. Donc il pouvait se rabattre parfois, je dis bien parfois, sur les fosses communes, donc de manger de l'humain. Mais attention, anecdotique, qu'on soit bien d'accord. Donc je disais, son retour en France, en tout cas on va parler de son retour en France, qui est naturel, on est quand même sur une réapparition assez jeune. Il est réapparu en 1992 par le parc national du Mercantour. Et ce sont des individus qui venaient d'Italie, et notamment d'une population, en tout cas de quelques individus qui venaient des Abruzzes, en Italie, là où le loup n'est pas chassé et strictement protégé, et avec qui les agriculteurs, les pastoraux et les gens en général vivent très bien. Donc c'est un retour entièrement naturel, qui a été confirmé par analyse génétique. Donc là, ce n'est pas des fadaises, ce n'est pas des on-dits, ce n'est pas des choses. Tout ce que je vais expliquer dans cette émission sont des faits scientifiques qui ont été prouvés par plusieurs scientifiques, par plusieurs études, à des années d'écart. Donc ce que je vais vous dire n'est pas de la démagogie spécifique au loup, mais en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on arrête et qu'on arrête de penser vraiment que le loup a été réintroduit spécifiquement pour embêter les agriculteurs et les agricultrices. Revenons du coup à cette population de loups qui sont revenus en France donc dans les années 1992. Cette population donc s'est implantée dans le parc du Mercantour et s'est développée au fur et à mesure dans le sud-est de la France, en tout cas dans le massif alpin. Aujourd'hui, on estime donc qu'entre 1992, où on avait deux individus, en tout cas avérés, de présents, on estime aujourd'hui, par les chiffres de l'OFB, donc l'Office française de la biodiversité et différentes associations, qu'il y a un peu plus d'un millier d'individus en France et sur tout le territoire français, et qui continue à s'étendre. Je vous expliquerai de quelle manière. Mais avant ça, nous allons écouter une première chanson avec la chanson de Nova Twins, Bassline Bitch. Red rags, no cash, top on the color tag. Dig it up, dirty gold. Trash, white noise, disturbance, flash. Turn it up, heads will roll. Pick it up, watch them fall. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll fill your mind with it. We'll slap that look right off your face. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll fill your mind with it. We'll slap that look right off your face. Full stash in hand. Perennial highs on tap. Dig it up, dirty gold. Pick it up, they won't know. Fast track. The clash, London is calling back. Turn it up, heads will roll. Pick it up, watch them fall. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with it. We'll slap that look right off your face. You know what time it is. Murder that baseline, bitch. We'll blow your mind with it. We'll slap that look right off your face. Yeah. Yeah. Et vous êtes sur CFM Radio dans l'émission Terre Commune et je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste. Nous parlions juste avant cette pause musicale avec la chanson de Nova Twins, Baseline Beach, du loup d'Europe, du loup gris, Canis lupus. Et nous allons continuer avec un petit peu son fonctionnement social, hein, qui est quand même très important. Il est quand même extrêmement connu du fait qu'il vive en meute. Et cette meute est avant tout une structure familiale composée donc, d'un couple reproducteur et de ses descendants. Le terme de couple alpha est souvent utilisé, mais il correspond simplement aux parents. Le fonctionnement repose surtout sur de la coopération, de l'apprentissage et de la transmission dans la meute. Grosso modo, comment ça se passe? On a le couple reproducteur, le mâle et la femelle, donc femelle alpha, mâle alpha, on va l'expliquer un petit peu plus comme ça, on va dire, qui vont donc se reproduire et faire des louveteaux. Ces louveteaux, ils vont grandir, on peut avoir entre 3, 4, voire 5 des fois, suivant le territoire, s'ils ont assez d'espace et assez de nourriture sur le territoire. Donc on va avoir plus de louveteaux sur une portée. Donc les louveteaux vont grandir, ils vont s'émanciper et vont devenir des louvards, qui vont devenir donc, grosso modo des loups qui vont avoir 1 an, 2 ans et qui vont, pour certains en tout cas, rester dans la meute. Il peut en rester 1, 2 et les autres vont partir. C'est ce qu'on appelle la dispersion, que j'expliquerai un petit peu plus tard. Donc dans cette meute, on va toujours avoir donc, le mâle et la femelle alpha, le couple reproducteur, et on va retrouver donc, du coup, un couple bêta. On va plutôt appeler ça comme ça, donc qui sont souvent les louvards, et qui, par exemple, un autre individu sera venu, un mâle ou une femelle, et qui va s'accopiner, en tout cas se reproduire avec un individu mâle ou femelle, quel qu'il soit, bêta. Et ce qui va constituer un deuxième couple qui n'est pas reproducteur du coup, mais qui lui va avoir comme fonction de pouvoir chasser, de pouvoir aussi garder les louveteaux du couple reproducteur et de faire de, un petit peu comme des tontons tatas et gérer un petit peu la nurserie aussi de lorsque le couple alpha est parti à la chasse. Donc ça fonctionne comme ça. Il faut bien vous dire qu'en France, nous n'avons pas des meutes de loups qui peuvent dépasser, enfin en tout cas avec des dizaines de loups, des vingtaines de loups, ça n'existe pas, le territoire n'est pas assez étendu, on a trop de morcelage du territoire pour avoir de grosses populations, de grosses meutes de loups. La plus grosse meute qu'on ait en France, je crois qu'il y a 8 individus maximum. Donc du coup, on en est quand même très loin de ces images de meutes qu'on peut avoir dans le parc du Yellowstone, par exemple, pour prendre cette image-là, ou même au Canada, où on peut retrouver une trentaine de loups, en tout cas dans une seule et même meute. Donc ça n'existe pas en France. On est plutôt d'ailleurs, et notamment là sur le sud de la France, en tout cas sur notre département, les départements limitrophes, Lot, Cantal, on est plutôt sur, en tout cas là où il y a des meutes, parce qu'il n'y en a pas partout, je l'expliquerai un peu plus tard, mais en tout cas on va être sur 2, 3 individus, 4 individus, grand maximum. Ok ? Donc je parlais de la dispersion, et donc là on a les louveteaux donc, qui sont devenus des louvards, et du coup certains sont restés dans la meute, et d'autres donc partent s'émanciper et se disperser. Comment ça se passe? Grosso modo, on a un mâle ou une femelle, peu importe, les deux peuvent le faire, qui vont partir de la meute entre 1 et 3 ans à peu près de leur vie. Et ces jeunes, ils vont essayer de trouver un nouveau territoire. Et pour trouver un nouveau territoire, donc, ils vont devoir partir. Comme je le disais, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres. On a des exemples de loups qui viennent par exemple de Pologne et qu'en quelques semaines, ils ont fait la Pologne, ils ont descendu, ils ont traversé toute la Pologne, ils ont traversé l'Allemagne, ils ont traversé la Belgique pour se retrouver par exemple dans les Landes, en France. Donc on a quand même des gros kilométrages derrière, quoi. Donc on est sur donc des individus qui parcourent des centaines de kilomètres. Et pendant cette phase, il y a quand même énormément de risques, autant pour les loups que pour les populations, en tout cas pour les troupeaux. C'est-à-dire que les loups qui partent là tout seuls ne peuvent plus compter sur la meute. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont devoir chasser seuls. Donc, soit ils vont trouver un chevreuil affaibli, un cerf ou une biche affaiblie ou un faon. Ils peuvent également trouver un sanglier ou des marcassins. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Mais, sur leur chemin, ils vont trouver des troupeaux. Et souvent, en France, pour la plupart du temps, à part dans les alpages, ou en tout cas beaucoup plus dans les alpages où ils sont protégés, sur le territoire français, les troupeaux ne sont pas protégés. Pas de chiens de protection, pas de clôture électrique. Donc en fait, ce qui se passe, pas de berger non plus. Donc ce qui se passe, c'est que le loup va trouver de la nourriture facile sur son chemin, alors qu'il est tout seul, qu'il est affamé et qu'il ne peut pas compter sur sa meute pour pouvoir l'aider à se nourrir. Donc c'est là où il va attaquer un troupeau. Alors souvent, on me parle du fait que les loups déciment un troupeau en entier. C'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis absolument pas contre les éleveurs et les éleveuses et toute la dimension émotionnelles et pécuniaires qui en résultent sont dramatiques pour eux et c'est pas normal qu'on ne les aide pas plus que ça. Et quand je dis « on », je parle bien de l'État français et du gouvernement. Et donc du coup, là-dedans, on va avoir plusieurs animaux décédés. Alors, comme pour le renard, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission du renard, j'expliquais la phase du surplus killing, qui est une phase instinctive, que lorsque un loup, un chien, un renard, donc essentiellement les canidés, mais ça peut arriver aussi chez certains mustélidés, comme la fouine et la martre, quand ils se retrouvent dans un lieu clos, donc c'est-à-dire un poulailler, par exemple, pour le renard ou la fouine, ou la martre, ou un pâturage où il peut y avoir une clôture avec des barbelés, donc clôturé, le loup va s'attaquer à un individu pour se nourrir, et lorsqu'il s'attaque à un individu, il va forcément créer de la panique. Et lorsqu'il y a panique, tous les moutons, les brebis autour de lui, les chèvres, vont courir dans tous les sens. Et pour qu'il puisse se calmer, parce que c'est une phase de redescente, il va falloir qu'il fasse le calme autour de lui, donc il va devoir tuer les individus qui le gênent et qui le font trop monter en stress autour de lui, ce qu'on appelle le surplus killing. Vous pouvez vous renseigner très facilement dans tous les livres qui parlent de la biologie du loup et des canidés en général. Les chiens le font également, je tiens à préciser. Donc cette phase de dispersion, elle est quand même extrêmement dangereuse pour les populations de loups, mais aussi pour les troupeaux. Et notamment pendant cette phase de dispersion, c'est plutôt là où on a l'essentiel des attaques de loups sur les troupeaux, en dehors des estives évidemment. J'en aurais des choses à dire sur le loup, on pourrait encore en parler. Nous pouvons également parler là de sa protection. Donc, c'est-à-dire que le loup était protégé, était strictement une espèce strictement protégée à l'échelle européenne jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des lobbies de l'agriculture, de la chasse et certaines personnes qui n'étaient absolument pas contre le fait que le loup puisse vivre tranquillement en France ont réussi, à l'échelle européenne, à déclasser le loup de la Convention de Berne et de la directive Habitat qui lui permettait d'être strictement protégé. Aujourd'hui, il est seulement protégé. Ce qui implique que chaque pays européen peuvent décider de ce qu'ils font en termes de réglementation avec l'espèce lupine, donc de savoir est-ce qu'ils ont le droit de le chasser, est-ce qu'ils ont le droit de le réguler, est-ce qu'ils ont le droit de le protéger entièrement et de ne pas le toucher, comme la Slovaquie l'a décidé, l'a fait. C'est le premier pays européen à l'avoir fait cette année en 2026. En France, c'est tout autre. Le gouvernement actuel, dirigé par son président, qui a bien dit lorsqu'il est venu à Roquefort en Aveyron l'année dernière que le loup n'avait rien à faire dans les pâturages. C'est complètement faux et archi faux, puisqu'en réalité, le loup n'habite pas en forêt, c'est plutôt un animal qui, de base, a un territoire qui va plutôt être sur de la prairie, de la lande, donc là où on va retrouver les troupeaux. Voilà. Donc en fin de compte, on est plutôt sur, à cause de l'homme, il doit se trouver un nouvel habitat et partir en forêt. Sauf que du coup, les forêts sont coupées, sont exploitées, ce qui gêne le loup et il va donc partir, se reproduire ailleurs. Et donc voilà, le cercle vicieux continue. Donc en 2025, ce tournant important a été amorcé et aujourd'hui on a une grosse souplesse sur le tir du loup, sur les tirs de loup, en sachant que déjà de base il était quand même extrêmement régulé en réalité, légalement, on va dire ça comme ça, puisque le loup aujourd'hui, en tout cas sur les dernières années, on pouvait légalement abattre entre 150 et 180 individus par an. Ce qui est assez énorme en fin de compte. Donc, sur une population d'un millier de loups, c'est quand même vraiment pas mal. En sachant que, du coup, ce qui se passe, c'est que ce loup-là, il est abattu assez impunément de cette manière-là. Donc partir de fusil par des louvetiers essentiellement qui sont agréés par la préfecture et par l'État français. Le truc, c'est que l'estimation réelle voudrait que on ait plutôt une population qui irait bien dans l'idée qu'il faudrait qu'il y ait entre 2500 et 3500 loups. C'est une moyenne par rapport au territoire. Attention, ce sont des études, encore une fois, mais on est sur une moyenne. Donc on serait plus autour de cette capacité-là. Aujourd'hui, on est sur un millier de loups et on a le droit d'en descendre à peu près 200 par an, ce qui n'est absolument pas normal. Et d'autant plus qu'en 2026, la loi est en train de s'assouplir au fur et à mesure pour faire en sorte qu'on puisse tirer le loup même avant qu'il attaque des troupeaux. Donc ce qui est assez dramatique une fois de plus. Donc le loup aujourd'hui est donc plutôt menacé, plutôt bien braconné également, parce que là on parle de ces 180-200 individus environ qui peuvent être tués légalement par l'État français donc par an, mais on ne parle pas de tout de tout le braconnage qu'il y a derrière. Donc tout ce braconnage là, lui peuvent représenter à peu près 10% de la population. Donc on peut rajouter encore vraiment au moins 150-200 individus derrière. Donc en fin de compte, on est vraiment sur pas du tout sur une bonne un bon chiffre en termes de population. Pour parler et pour finir de parler, puisque je vais faire en deux parties cette émission sur le loup, grosso modo, là, on est quand même plutôt sur une régression en termes de protection de cette espèce-là, ce qui est quand même assez dramatique, puisque on en parlera un petit peu plus plus tard dans l'autre émission, mais on est quand même vraiment sur un régulateur de population forestière, notamment autour du cerf, autour du sanglier, qui peut être problématique dans certaines régions. Et non, je le dis et je le répète à chaque émission lorsque je parle de mammifères et notamment de prédateurs, non, le loup ne va pas tout manger sur son territoire, étant donné que s'il mangeait tout, il ne pourrait plus survivre le territoire français et européen n'est pas extensible pour lui. Donc on est assez vigilants, les associations de protection en tout cas qui militent, et nous naturalistes qui militons quand même pour le fait de réussir à vivre en coexistence, à cohabiter avec celui-ci, on est trop, il y a trop de pression sur le loup aujourd'hui. Je continuerai de vous expliquer tout ça dans une deuxième émission que vous pourrez retrouver un petit peu plus tard. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée, bien ensauvagée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Thank you.